C'est le deuxième temps de ce chantier thématique autour des lieux. C'est parti.
Sans doute se cachent encore dans le béton des bunkers nombre d'autres données non encore déchiffrées, telles que la loi de la relativité, le calcul du zéro absolu, ainsi que deux ou trois prédictions concernant la fin de notre monde.
Il y a plusieurs lieux remarquables dans le film documentaire de Gianfranco Rossi, Fukuhamare, tourné à Lampedusa. Il y a cette île de roches, d'arbres et de cactus au cœur desquels un enfant joue à la guerre. Il y a ce centre de sauvetage marin qui demande en urgence « Quelle est votre position, mon ami ? Quelle est votre position ?» Il y a la maison de Maria, le studio de la radio locale et il y a le cabinet médical du docteur. Posant la sonde sur le ventre rond d'une rescapée de naufrage, il peine, en souriant, à démêler les corps des deux jumeaux pour en déterminer le sexe. Mais ça va. Après tout ça, ça va quand même. Et puis il y a ce centre de signalement où hommes et femmes enroulés de couvertures dorées de survie se font prendre en photo. Pendant plusieurs secondes, un des hommes regarde la caméra et non le photographe, si bien que son regard, lui-même, devient un lieu infini. Alors des roches, de la mer et des cactus... Je ne doute pas qu'ils resteront, mais en voyant ce très beau film hier, je me demandais ce qu'il restera des temps terribles que nous traversons. Il est 14h passées de 1 minute, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Chercher des lieux en décelant la qualité cinématographique, voilà ce que fait Valérie Novel depuis des années en sa qualité d'assistante metteur en scène chargée des décors. Aujourd'hui, elle nous parle du tournage du prochain film de Michael Haneke.
Ce qui est formidable avec les scénarios de Michael Haneke, c'est qu'à la lecture, on sent le rythme, on sent la lumière, on sent les silences, on voit assez bien ce qu'il souhaite.
Et en l'occurrence, Haneke souhaitait une chambre très longue de 5 ou 6 lits dans une clinique, ce qui ne se fait plus vraiment. Alors c'est l'histoire d'un lieu qu'elle n'a pas trouvé, mais remarquablement cherché vers 14h50. Deuxième temps d'un chantier thématique consacré donc au lieu. Aujourd'hui, on se demande ce qu'il reste d'eux. Ce qu'il reste d'une ligne frontière, fortifiée, guerrière, ce qu'il reste des bunkers, des blockhaus et du béton, ce qu'il reste de la ligne dans la lande. On se demande aussi ce qu'il reste des usines, des bâtiments industriels qui, quand ils ne sont pas entièrement requalifiés et restaurés, sont détruits avec un peu de la mémoire qu'ils portaient. Ce qu'il reste n'est pas réductible à ce que l'on y voit, par conséquent il faut que les images, les descriptions ou les dessins captent de ces lieux et du signal qu'ils émettent plus large et plus profond. Alexandre Gürkinger, présentiez cet été votre série La ligne Maginot aux rencontres photographiques d'Arles qui sont terminées il y a 2 jours. On peut aussi noter le livre du même nom avec des textes de Tristan Garcia chez RVB Books. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
On s'était mis d'accord sur la prononciation de votre nom. Je vais y arriver dans les projets. Exactement, Gürkinger. Et Marion Chambard-Delot, votre projet Dernières Heures des bâtiments, est une série de dessins au trait et gravures numériques sur métal. Mais pour l'instant, car c'est voué à évoluer, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Avant qu'on rentre dans la description de vos travaux respectifs, quand on vous dit lieu à tous les deux, vous pensez à quoi ? C'est rattaché à quoi dans votre tête ? Parce que ce n'est pas une notion si facile à laquelle on s'attache depuis hier et jusqu'à vendredi. Alexandre ?
Un espace défini, je pense, ou un espace à définir. Et probablement dans le cadre de ma pratique, les lieux où je vais réaliser des images.
Et c'est souvent, vous pensez souvent votre travail en termes de lieux justement, en termes d'espaces définis, en dehors de ce projet très particulier de la ligne Maginot.
Alors ce projet est un peu particulier parce que c'est un projet que j'ai mené depuis que j'ai commencé la photographie. Donc c'est un projet qui englobe une grosse partie de ma pratique. Dans ce travail-là, oui, forcément il y avait le lieu et cette ligne qui définissait les différents lieux de travail. Dorénavant, enfin dans le futur, je pense justement m'éloigner un petit peu de cette notion de lieu pour justement réaliser les prochains projets.
Et vous savez vers quoi vous allez quand on quitte les lieux, lorsqu'on est photographe, lorsqu'on fait des images, on peut aller vers quoi ?
Pour ma part, je pense me diriger vers un espace qui pourrait être peut-être qualifié de lieu, mais qui serait de plus en plus l'espace de l'image dans une dimension plus expérimentale.
Plus de matière,
plus de matière,
plus d'images directes.
Sans perdre de vue le référent, mais d'être sur une manipulation plus grande de l'objet photographique.
Marion Chambard-Delof, quand je vous dis lieu, vous pensez à quoi, instinctivement, en dehors de votre travail précis ?
Parcourir, se déplacer, explorer.
C'est quelque chose que vous faites beaucoup, en dehors de ce projet-là ?
Oui, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et c'est ce qui m'a conduit à faire ce projet-là, au final. Des explorations multiples, répétées, un peu partout, un peu comme un chien qui flaire dans les rues.
Et c'est de cette pratique, ou en tout cas c'est de ce déplacement naturel, de cette façon de vivre, qu'est né le projet dont on va parler ?
Oui, d'une certaine manière oui, et puis c'est une façon aussi d'expérimenter, parce qu'être dans les lieux, c'est expérimenter tout ce qu'ils détiennent de potentiel et d'histoire.
Vous parlez de lieux qui émettent des signaux, ce sont des signaux qui viennent à vos sens, par quoi par exemple ? L'odeur, la vue ?
Beaucoup la vue quand même, parce que je pense que je suis j'ai une mémoire visuelle très forte et qui s'imprègne beaucoup de détails et de lumière et d'espace. Et je cherche souvent les espaces qui me permettent d'envoyer mon regard vers l'horizon, donc assez loin. Notamment, je pense à Mostar, parce que c'était un endroit où il y a eu une marque très forte des lieux, et qui a un petit peu éveillé cette envie de parler de leurs traces, parce que les murs des lignes de front étaient très très fortes, et puis à travers ces murs, enfin aux côtés de ces murs, il y avait des fenêtres, et les fenêtres elles donnaient vers le ciel, vers nulle part, et c'était très particulier comme rencontre avec des lieux. C'était une des rencontres les plus fortes, je pense.
À Mostar.
Oui, à Mostar.
Des espaces, des lieux et du regard, il y a un homme qui en a fait presque toute une vie, on l'écoute.
J'ai décidé un jour de faire des descriptions de lieux à Paris, selon un protocole très, très précis. J'ai choisi 12 lieux qui étaient des lieux clés, disons, enfin des endroits où il m'était arrivé des choses particulières, enfin des événements plus marquants, disons. Et j'ai décidé d'aller sur place, une fois par an, dans un de ces lieux, exactement une fois par mois dans un de ces lieux, de manière à les couvrir tous en une année, et le même mois, de décrire les souvenirs qui étaient rattachés à ces lieux. Et en choisissant ensuite un système de permutation qui faisait que je n'allais pas chaque mois dans le même lieu. Je n'allais pas tous les mois de février dans le lieu où j'étais allé la première fois le mois de février, mais ça permutait de manière à ce que j'aille dans chaque lieu, dans chaque mois de l'année. Donc le projet devait durer 12 ans. Le premier, par exemple, où je suis allé, c'est le Carrefour Mabillon. Et je m'installais ou bien dans un café ou bien dans la rue, et je faisais une description que j'appelais dénotée. Enfin, en référence à ce que Barthes dit de la dénotation, c'est-à-dire ponctuelle, littérale, linéaire, de ce que je voyais. Alors je promenais mon regard, comme ça, en disant « je vois ceci, je vois cela, un autobus passe, etc. » Et une fois ce texte fait, je le mettais dans une enveloppe que je scellais, avec un cachet à la cire. Je marquais dessus numéro 1, Mabillon. Et ensuite, le même mois, je faisais n'importe où, je faisais une évocation, alors cette fois-ci plus du tout dénotée, de tous les souvenirs qui se rattachaient à ce lieu. Et de la même façon, une fois que cette évocation était rédigée, je l'enfermais dans une enveloppe. J'avais une sorte de hantise de ne pas noter assez ou trop. Ou mal. Donc, de ne pas, quand je voulais faire cette description dénotée, je veux dire, il me restait rien. Je me disais, je ne note pas ce qui est vraiment intéressant, je ne sais pas regarder. Et je ne sais pas regarder, et surtout, je ne sais pas re-regarder.
Celui qui dit qu'il ne sait pas re-regarder, c'est bien sûr Georges Perec. Dans une archive de 1978 tirée des Nus magnétiques diffusée sur France Culture, il évoque ce projet qu'il commence et ne poursuit pas sous cette forme-là, en tout cas en 1969. Avant d'évoquer sa hantise de ne pas savoir regarder ou re-regarder, il parle du choix des lieux et de ce rythme, de cette cadence avec laquelle il les visitait, il les regardait, il les notait. Vous avez signalé tout à l'heure, Alexandre Guercinger, que vous avez été pendant longtemps arpenté le long de cette ligne, combien de temps, à quel rythme et qu'est-ce qui a présidé à ce rythme-là?
Alors j'ai commencé ce projet en 2006, donc ça fait 10 ans. J'y suis pas allé de manière continue, c'était à chaque fois des petits sauts de puce, des voyages qui duraient environ 5 ou 6 jours dans une région particulière que je repérais souvent sur internet en faisant des recherches sur le type d'ouvrage militaire, le type de blocos qu'on pouvait y trouver. Et donc je cherchais ces lieux et ces lieux que j'avais pré-repérés et voilà.
Et vous les cherchiez comme quelque chose qui était désirable, inquiétant, comme quelque chose qui était les stigmates d'un endroit plus grand que vous cherchiez à reconstituer. Ça ressemblait à quoi cette traque?
Oui, en fait, je cherchais pas du tout. Dès le début du travail, j'ai jamais vraiment cherché à montrer une réalité ou à en faire une restitution qui ait une valeur historique ou documentaire réelle. Je cherchais plutôt des formes qui m'interpellaient pour des raisons autres qu'historiques. Donc ça pouvait être un ouvrage qui ressemblait aux descriptions de Julien Gracq dans Un balcon en forêt, un roman qui se passe sur la ligne Maginot. Ça pouvait être des formes d'ouvrages qui rappelaient plutôt un univers de science-fiction ou de land art. J'essayais d'ouvrir un champ très large, parce que le sujet de la ligne Maginot est un sujet très ouvert du fait du peu de représentation visuelle qu'on en a. Il y a une très grande charge symbolique, mais assez peu de représentation visuelle. Donc c'est un terrain de jeu très libre, en fait, pour expérimenter des représentations.
Vous avez décidé, puisque Perec dit « j'ai choisi 12 lieux qui étaient importants pour moi, ou en tout cas qui étaient dignes de ce choix », vous avez eu l'impression de choisir la ligne Maginot ?
Pas vraiment, je crois pas. C'est l'origine du projet, un peu une fascination enfantine. Mes parents viennent de l'est de la France, d'un petit village en Moselle qui s'appelle Oudrenne, et qui est vraiment très proche d'ouvrages très importants et très impressionnants, la ligne Maginot. Donc enfant, en fait, avec mon père, on se promenait dans la forêt et parfois on tombait sur un monstre de béton. Et de ces rencontres est née un peu une fascination pour ça. Et un jour de l'été 2006, mon père revient d'une balade en forêt et il me dit qu'il est passé devant un bunker et il me décrit une scène comme quelqu'un qui tondait la pelouse devant ce bunker. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, quelqu'un a transformé ce bunker en une maison d'habitation, quelque chose comme ça. Et ça, c'était la première zone d'interpellation. Et en fait, c'était une association qui commençait à rénover cet ouvrage. Et de là, en fait, j'ai commencé ce travail, mais sans du tout penser qu'il allait durer aussi longtemps. Et même sans du tout penser au début qu'il allait prendre cette forme-là au final.
Quand vous dites cette forme-là, c'est quoi? C'est justement ces images qui cherchent autre chose que de la reconstitution historique?
Oui, déjà. Et ces images aussi déshumanisées. Au début, j'ai travaillé sur justement ces associations qui rénovaient, sur des gens qui faisaient des reconstitutions historiques sur la ligne Maginot, et également des paysages. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la zone la plus intéressante d'expérimentation était plutôt sur ces images déshumanisées que sur les anecdotes que peuvent représenter des gens qui font des reconstitutions historiques ou qui rénovent un bunker.
Est-ce que vous diriez que vous choisissez, Marion Chombard-Delove, les lieux? Est-ce que ce sont eux qui vous choisissent par le hasard justement des déambulations que vous décriviez tout à l'heure? Comment est-ce que s'opère votre destination vers ces lieux-là?
C'est plutôt eux qui me choisissent ou ils viennent à moi par des signes, des signaux. Donc soit c'est les gens qui m'en parlent, soit c'est au travers de mes promenades. Il y a eu, comme là je commence à, mon projet a commencé en 2012 et là je suis sur, il y a des bâtiments que je suis, que je dessine, dont je suis la transformation, mais de façon assez brève. Mais sur les gros projets, on va dire qu'il y a eu une fois, c'était une promenade. Et une autre fois, j'avais fait un dessin pour ma carte de visite et une de mes amies m'a dit, tiens, je connais l'architecte qui travaille sur ce bâtiment, il va être réhabilité. Donc elle m'a dit, si ça t'intéresse, je peux te le présenter et voir si t'as envie de travailler là-dessus. Et voilà, du coup, je suis allée sur les lieux et je me suis dit, non, je veux pas faire de la réhabilitation, je veux travailler sur des lieux qui disparaissent. Et au final, en comprenant un peu ce qui allait se passer sur le chantier et qu'il allait être transformé en profondeur, j'ai eu envie de suivre sa transformation parce que c'était assez notable pour que ça s'intègre dans mon travail.
Que c'était presque proche d'une disparition, justement.
Disons que c'était la métamorphose et que je trouvais que ça avait un sens. Et il y avait beaucoup d'éléments dans le bâtiment. En fait, c'est les magasins généraux à Pantin. Et c'est un espèce de... Extérieurement, ils n'ont pas énormément changé. Mais intérieurement, ils ont été creusés en profondeur, vraiment beaucoup. Et comme mon propos était beaucoup autour d'espaces qui se libèrent, ça me plaisait de travailler sur des espaces qui se libèrent, mais en laissant aussi un contour.
Vous disiez et vous écrivez combien est-ce que ces lieux envoient des signaux, émettent des choses. Est-ce que vous avez une sorte de phénomène de reconnaissance? Parce que d'une certaine manière, quand on écoutait Alexandre, il dit « je sais ce que je cherche ». En tout cas, vous localisez au préalable, avant ces marches-là, des endroits où vous allez. On a plus l'impression, vous, qu'il s'agit comme d'une forme de rencontre. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Une rencontre avec un lieu?
Oui. Oui, il y a une rencontre et puis il y a aussi la manière dont il va être transformé, où il va disparaître. Ça va induire ma manière de réagir par rapport à lui. Je connais pas la temporalité de sa disparition ou de sa transformation et je me retrouve embarquée pour une presque une traversée de 2 ans et je pense pas toujours que ça puisse avoir cette temporalité là donc je me laisse un peu il y a un espèce de rapport au corps qui s'installe.
Et autant, hein, si on essaie de suivre justement ce fil proposé par Perec et puis celui que vous décriviez tout à l'heure, Alexandre, il y a une question de rythme. Oui. À quel rythme on visite un lieu et pourquoi? Par exemple, pour ce projet au long cours sur 2 ans, ça s'est passé comment?
Je vais sur les lieux, je dessine in situ, donc je rentre dans le chantier à différents moments de l'année, donc avec les intempéries qui vont avec les différentes saisons. Et en parcourant le bâtiment, je sens aussi la vitesse de transformation, parce qu'il y a des choses qui sont plus notables que d'autres pour moi. Et je saisis des instants, que j'appelle des instants remarquables, pour faire écho à ce que disait Deleuze sur l'image mouvement, essayer de trouver des appuis, en fait, tout comme quand on fait une démolition à l'explosif, on va trouver des points de force du bâtiment pour un peu orienter sa chute. Et moi, quelque part, dans le jeu de cette transformation, je suis moi-même portée dans le temps et dans l'espace à sentir cette transformation, à la suivant. Donc j'essaye de garder une manière assez intuitive de rentrer dans les lieux et de sentir comment ils bougent. Donc je choisis des endroits de façon assez discriminatoire et ça écrit un peu une de leur histoire.
Et qui est la vôtre, et qui est celle du regard, hein, pour reprendre aussi un autre mot de Perec, qui a la hantise de ne pas pouvoir regarder suffisamment bien ou suffisamment tout court, et de n'être pas capable de re-regarder. Il y a aussi, quand on voit vos dessins, toute une recherche de point de vue, c'est-à-dire qu'on sent que vous travaillez dedans, avec le lieu, mais aussi autour du lieu.
Oui.
Oui. Comment ça se passe, cette recherche de point de vue?
Je parcours beaucoup et puis il y a une tension, en fait, une tension aussi liée au temps, à la lumière. Donc il y a souvent plusieurs vues qui me parlent et puis à un moment donné il faut que je fasse un choix. Donc il y a une grosse contrainte d'abandon, en fait, de tous les autres moments que j'ai perçus, et puis je suis obligée de... C'est un peu comme un acte théâtral, il y a une espèce d'intuition, ça s'installe, et puis je fais ce choix-là. Et puis après, il y a quelque chose qui s'écrit aussi au fur et à mesure avec l'entrée dans le projet, parce que je travaille avec des machines après, je travaille avec les matériaux que je récupère, et ça c'est dans un autre temps. Donc tout ça vient ajouter des contraintes et des informations. Donc c'est comme un espèce d'ouvrage que je tisse, et puis je... je déroule le fil.
Et justement, peut-être le choix de ces points de vue est assez déterminant, aussi parce que vous pratiquez le dessin, que c'est donc une forme de travail qui prend énormément de temps et que dès lors que vous avez choisi un point de vue, il n'est pas aisé de tout de suite en changer et de passer à autre chose, ce que permet peut-être plus facilement la photographie, ce qui vous a ôté la hantise de Pérec de ne pas savoir regarder ou re-regarder ces lieux de la ligne Maginot, Alexandre ?
Moi, je suis assez de la manière dont tu décrivais cette hésitation et ce moment de tension entre deux angles. Je retrouve assez bien, moi, ces moments de tension que j'ai face à un ouvrage. Alors, pour ce qui est de la ligne Maginot face à un bunker, en fonction de la lumière, en fonction de l'orientation. Donc, je ne sais pas si la photographie permet...
N'enlève pas ça, en tout cas.
Ouais, n'enlève pas ça. En plus, pour le coup, je pratique une photographie qui est où la rareté est assez importante. Je travaille en film et avec ce qu'on appelle la photographie grand format. Donc, j'ai pas la possibilité de faire beaucoup de prises de vue autour d'un même objet. Donc, je dois aussi choisir très attentivement mes angles et mes orientations. Un peu de la même manière que quelqu'un qui dessine, je pense.
De cette tension, il apparaît en tout cas, par exemple, pour un cliché que j'ai très en tête, où on voit un ouvrage en béton, vraiment, c'est très similaire à ce qu'on peut voir en land art, la beauté d'un coin en béton comme ça, qui se dessine presque pris dans la nature. Il y a quelque chose de très résolu, justement, en termes de tension, de très apaisé, et pour travailler avec cette idée de la guerre, de très pacifié.
Oui, c'est vrai, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite, que j'ai pas vraiment cherchée. Je pense qu'elle est venue d'elle-même. Probablement parce que la raison de l'image est cet ouvrage militaire, j'estime que chaque élément autre que cet ouvrage, par exemple la forêt qui entourait cet ouvrage caché par un arbre, si vous parlez bien de la même image que j'ai en tête, est pour moi aussi importante que l'ouvrage. Donc chaque élément en fait est pris dans une composition globale, et ce qui peut-être donne ce côté assez apaisé.
D'ailleurs, on a l'impression que même plus que la forêt, on a la sensation que votre œil se pose aussi et à égalité sur la matière, sur l'angle, sur le dessin qui est fait, comme si vous étiez capable, et j'imagine pas complètement, mais de faire abstraction du fait que cet élément-là a appartenu, fut un temps, à un élément fortifié et guerrier.
Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait par exemple très très peu de recherches historiques sur la ligne Maginot, et ça n'a jamais été le cœur en fait de ma recherche, cette dimension guerrière ou cette dimension ou l'utilité première de ces ouvrages-là. Je les prenais vraiment comme des structures autonomes, indépendantes d'un contexte historique particulier, mais dépendantes d'un contexte visuel et environnemental.
La guerre actuelle a été dès le premier jour ce que la dernière guerre est devenue à la fin de 1914, une guerre de position, une guerre de tranchées. On pourrait même dire, avec plus d'exactitude, que la guerre a été du premier jour une guerre de forteresse. De là cet aspect d'attente. Mais elle n'en est pas moins une guerre, tout comme la guerre de l'hiver 1915 était la guerre. Dans cette situation, nos armées ont renforcé depuis la mer du Nord jusqu'au Jura la formidable ligne de résistance que constituait déjà au nord-est la ligne Maginot. Elles l'ont étendue en profondeur. Elles en ont décuplé les moyens. Et derrière ce rempart, nous avons constitué une masse de manœuvre où se mêlent nos soldats et les soldats britanniques, et qui, par sa mobilité, peut barrer partout la route à l'invasion.
De nos jours, le XXe siècle n'intéresse plus grand monde. C'est déjà trop loin, ou encore un peu trop près. Et puis tout est en ligne. Pas besoin d'aller voir ce dont on possède déjà les images. C'est ce que lui a dit la fille. Après la disparition de tous ceux qui auront connu ce siècle-là, les ruines des monuments du XXe s'effriteront aussi bien que toutes les autres, pense l'aigle, qui cligne des yeux et essaie de s'imaginer vieux avec elle. Il se la figure en cheveux blancs. Le photographe n'aime rien tant que rêver par avance à ce qui restera demain d'aujourd'hui et à la façon dont les enfants de ses enfants se souviendront de ce qui a lieu maintenant. On trouvera dans la région quelques curiosités archéologiques, pêle-mêle, des sites gallo-romains, des châteaux, des abbayes, des fermes et des maisons modernes, et puis des ruines de la ligne. Peut-être habiteront-ils tous les deux près d'ici. Ils auront vu mourir leurs parents et grandir leurs enfants. Au fil du temps, la construction se sera enfoncée dans les limbes, au fond des sapinières désertes de ce qu'on appelait naguère la Moselle ou les Vosges. Aujourd'hui déjà, la ligne n'est plus qu'une succession de petits points. Entre deux points d'acier et de ciment, les intervalles vides grandissent, rongeant ce qui restait des places fortes et condamnant l'ensemble à s'effacer très lentement, à la façon des dessins d'enfants sur la buée des vitres, estompés par le refroidissement de l'air ambiant. Un court instant, l'aigle a l'impression d'avancer non pas dans la forêt lumineuse, mais parmi le musée naturel d'un nombre infini d'images, émanant dans toutes les directions de l'espace depuis les hêtres, les bouleaux, les dernières maisons du village, crépies de jaune, les tapis feuillus, la mousse mordorée et proliférante. Il se sent mis au défi de choisir parmi un nombre incalculable des tableaux définitifs du moment présent, comme un jeune homme à qui toutes les beautés du monde sont offertes, à la condition de n'en désirer qu'une.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Alexandre Gurquinger, c'est un extrait du dernier texte de ce recueil de nouvelles signé Tristan Garcia. Il s'appelle « La photographie ». Pur hasard, parce que j'aurais pu en prendre dans d'autres, mais il me semblait que c'était un texte qui avait un effet miroir possible avec la manière dont vous aviez travaillé autour de cette ligne Maginot, puisque vous êtes photographe et que vous avez vous aussi arpenté les lieux. Tout à l'heure, au tout début, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par, en tout cas pas happé, par la force historique et guerrière de ce lieu, et qu'au contraire, ça vous offrait un terrain de jeu incroyable, comme par exemple celui de la fiction. Quel est le statut de ces textes de Tristan Garcia qui font copain-copain, par exemple, dans ce livre et aussi dans l'exposition ?
C'est en fait le livre dont vous avez lu un extrait est vraiment une confrontation d'un travail photographique et d'un travail littéraire autour de la ligne Maginot. Et il a d'ailleurs la forme d'un livre, plutôt la forme d'un livre littéraire plutôt qu'un livre d'images ou qu'un beau livre. Le dialogue est un dialogue libre et je saurais pas très bien le résumer. En tout cas, c'est le texte n'a pas été écrit à partir des images et les images n'ont pas été écrites à partir du texte. Mais avec Tristan, dans les 2-3 dernières années, on a développé un dialogue autour de ce travail. Je lui ai souvent envoyé les images que je faisais. Il m'a beaucoup aussi interrogé sur la manière dont je travaillais. Il a été aussi faire des recherches sur la ligne Maginot. Et il a écrit très rapidement le texte, mais il l'a maturé pendant assez longtemps. Et je pense que le chapitre que vous avez lu, effectivement, est un petit peu marqué par...
Des récits que vous avez pu lui faire.
Oui, voilà, tout à fait, oui.
Par exemple, il y avait quelque chose tout à l'heure lorsque vous parliez de l'effacement progressif et l'effacement presque programmé en dehors des restaurations de ces endroits-là. Quelque chose qui me semblait aussi parler de votre âge, parler de la manière dont vous êtes dans le monde aujourd'hui en 2016 avec l'âge que vous avez et qui peut-être n'est pas exactement le regard que pouvait porter votre père lorsqu'il se promenait lui aussi sur la ligne Maginot dans cette forêt. Comme si vous aviez peut-être plus de liberté à regarder cet endroit parce que la guerre est plus loin.
Oui, probablement. C'est surtout venant d'une famille qui est franco-allemande et dans un territoire qui a été successivement français et allemand.
Et très marqué par la guerre.
Dans chaque village, les histoires de guerre sont encore d'ailleurs très vivaces. Mais il y a un petit peu plus de décalage. Le temps a fait un petit peu plus son effet qu'il l'avait fait sur mon père, très certainement. même s'il y a des... Je disais que je faisais pas vraiment de lien historique, mais depuis, par exemple, et dans la manière dont je peux parler du projet à des gens qui sont pas forcément... qui ont plutôt une inclinaison à poser des questions historiques, il y a un parallèle qui se fait très aisément avec la situation aujourd'hui des migrants et ces tentations qui reviennent et qui reparcourent l'histoire de fermer les frontières, de les étanchéifier d'une certaine manière et qui sont toujours ou souvent des entreprises assez vaines, comme a pu l'être la ligne Maginot.
Et d'ailleurs, revient beaucoup dans les textes de Tristan Garcia. Alors évidemment, ce ne sont pas ni vos propos ni vos mots, mais l'idée d'une France qui crée sa silhouette en fortifiant ses contours, qui se définit précisément par le front avec l'autre, le front guerrier avec l'autre. Vos images, au contraire, montrent beaucoup de végétation, beaucoup de choses qu'on peut traverser. D'ailleurs, le photographe que décrit Tristan Garcia s'appelle l'aigle, c'est-à-dire quand même un animal merveilleux qui peut survoler ces frontières-là. On a eu la sensation que vous arpentiez cet endroit comme quelque chose d'ouvert.
Oui, c'est assez vrai. J'avais jamais réfléchi à ça de cette manière-là. On passe aisément les frontières de toute façon aujourd'hui, enfin heureusement, et j'espère pour encore longtemps.
Pour vous en tout cas.
Pour moi, absolument, dans cet endroit-là. Et par contre, ce que vous disiez sur le fait que la France avait voulu marquer ses frontières, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait que la ligne Maginot ait cette particularité que ce soit majoritairement souterrain. Donc c'est presque comme si on avait voulu les enraciner plus que les tracer. Et enterrer une façon de cette manière une identité propre, ce qui a pas vraiment réussi apparemment.
Ce qui rend évidemment la question de l'image d'autant plus tendue et intéressante, le fait que ce qui a été marqué a été en tout cas pour une part enterré, ça veut dire que ce qui est visible n'est pas de l'ordre de l'évidence. C'est aussi quelque chose qui vous intéressait?
Oui, je pense que c'est le... Vous me demandiez tout à l'heure la manière dont j'avais commencé le projet. J'ai photographié aussi l'intérieur des bunkers. Et en revenant à la surface, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg, quelque part. La plus grosse partie de la construction est souterraine. Donc, en s'intéressant juste à ces lignes en surface, ça nous permet peut-être d'échapper à un référent trop présent.
Quand je lisais les textes de Tristan Garcia, où ça parle alors que les images d'Alexandre Gurkinger sont silencieuses, justement, où il n'y a pas d'homme, en tout cas pas la présence visible de l'homme, je pensais à la manière dont vous devez, vous, Marion Chambard-Delauve, parler, j'imagine, sur les chantiers, peut-être justifier votre présence, peut-être négocier le matériau qui ensuite vous servira de support pour les œuvres produites, peut-être simplement dire pourquoi vous êtes là et pour combien de temps. Ça se passe comment, cette parole ?
Les multiples, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait autour des lieux. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce qu'au final, dans ce que je produis visuellement, il y a très peu d'humains. À part quelques travailleurs qui sont là de temps en temps, j'ai envie de les marquer dans le paysage. Et par contre, c'est foisonnant les rencontres que je fais sur place, donc avec les ouvriers, ceux qui sont à proximité de l'endroit où je dessine, puisque je reste quand même assez longtemps au même endroit. Et ensuite, les gens qui me donnent accès au lieu, donc le monsieur à l'entrée parce que j'ai eu un badge, par exemple, là, pour rentrer, j'avais une autorisation, c'était obligé. Le bâtiment est trop grand pour que je puisse juste être à l'extérieur. Et j'ai commencé c'était un rituel, à chaque fois on passait du temps à se parler devant sa cabane avant de rentrer sur le chantier. Il y avait des figures répétitives et puis après il y avait les gens. Et puis moi j'aimais montrer les dessins et les morceaux de bâtiments que j'avais gravés aux ouvriers, parce que je voulais leur montrer ce que j'en faisais, et surtout que certains d'entre eux m'aident beaucoup. Certains, le chef de chantier par exemple, au début il me coupait des morceaux pour que je puisse faire des tests avec la machine. Donc je revenais avec mes morceaux gravés pour lui montrer le résultat de son aide, quelque part, de sa participation à ce travail-là.
Et quel mot vous mettez pour expliquer à quelqu'un ce que vous entreprenez pour garder une trace d'un lieu que En face de vous, des ouvriers sont ou bien en train de détruire, ou bien en train de complètement vider pour qu'ils soient transformés. Donc il, quand même, tout de même, il quitte sa précédente identité. Mmh. Vous lui dites quoi de votre rapport au lieu et est-ce que c'est audible et de quelle manière ?
Ben, je fais pas trop de discours, en fait. J'aime bien leur montrer les dessins et entendre, moi, ce qu'ils racontent.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, eux?
Ben, ils réagissent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi quelque chose de concret. J'arrive avec des dessins, j'arrive avec un objet, et puis ils sont étonnés. Déjà, je pense que pour certains, ils sont... Enfin, en tout cas, sur certains chantiers, les ouvriers, au début, ils me voyaient de loin dessiner. Ils se disaient, mais les gens, ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Qu'est-ce qu'ils font là ?
Que de venir dessiner des lieux qui vont tomber dans quelques
mois. Oui, ou dessiner, parce que ça attire beaucoup de gens, quand même, les chantiers. Donc, il y avait beaucoup de gens qui gravitaient autour. Et puis, au final, de leur montrer ça et de les montrer avec leurs machines parce que les machines sont très présentes aussi, ça donnait de la valeur à leur travail aussi, je pense. Et le fait de voir les dessins, ils comprenaient pourquoi ça prenait du temps, et puis il y avait un espèce de dialogue entre leur travail, le mien, et puis surtout l'intérêt de l'endroit où ils sont. Je pense qu'ils le savent très bien, mais quelque part ça les faisait sortir de quelque chose de très concret qui était gratté, arrangé, enlevé. Ça devenait aussi une projection
vers autre
ailleurs.
Chose. Vous, oui. Vous avez évidemment l'espace de réfléchir dans ce projet Dernières Heures des Bâtiments à ce que à la relation que vous entretenez avec ces lieux-là, puisque c'est aussi la manière dont vous parlez des matériaux. Ce sont des matériaux que vous apprenez à connaître, des lieux que vous apprenez à connaître. Donc il est vraiment question de quelque chose qui est circulaire, qui est vraiment relationnel. Est-ce que vous avez la sensation que, en faisant ça, vous questionnez aussi la relation que ces hommes qui travaillent ont avec les lieux dans lesquels ils travaillent?
Je sais pas si je peux, enfin, j'aurais pas la prétention de questionner, de rentrer vraiment en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de sujets, et puis je parcours des strates sociales très différentes, mais ce que je vois, c'est que les lieux, ils donnent à pénétrer des couches sédimentaires d'humains très variés, c'est-à-dire je rencontre des politiques parce qu'ils ont le territoire en main et ils prennent des décisions. Je rencontre les ouvriers qui sont hiver comme été soumis aux intempéries et aux lieux avec leurs contraintes. Et je rencontre les promoteurs, je rencontre vraiment, et puis les habitants aussi qui sont très très intéressés. Donc j'aimerais pouvoir développer un peu cette question-là. J'avoue que c'est Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est très foisonnant.
Et lorsque vous gravez, puisque justement vous travaillez notamment avec des machines laser, directement sur du métal, il y a précisément cette question des couches, puisqu'il y a de la peinture, des solvants, le métal en lui-même, et que la machine elle-même, en creusant, creuse des couches. C'est quand même une façon presque de matérialiser la manière dont vous fixez la mémoire de ces lieux-là.
Oui. Oui, puis c'est aussi raconter la rencontre, c'est-à-dire que le dessin, de toute manière, c'est très discriminatoire. Je choisis, j'enlève s'il y a des éléments qui me gênent. Les perspectives sont un peu fausses parce que c'est perverti par le
regard.
Voilà. Et puis j'aime bien que le dessin il soit aussi perverti ou en tout cas transformé par le matériau, que le matériau il a été soumis aux intempéries, il ait souffert du temps, qu'il ait ses traces, et que tout ça se rencontre et qu'au final on parle d'une mémoire où on construit toujours quelque chose de très subjectif, et qu'au final le patrimoine et ce qu'on voudrait penser comme figé dans un temps et un espace donné, c'est juste une construction et une question de choix, en tout cas, et puis de reconnaissance de beaucoup de regards au final. Donc c'est un espace un peu vide dans lequel on peut s'installer à un moment ou à un autre, mais où on reste pas.
Lucky, you're disappointed at the electric light shining in here. Obvious try, it's not what I planned on. Better to let go. Thank you.
Je pense que quand même, chacun de nous a son lieu, et mon lieu, c'est manifestement mon pays, c'est-à-dire la Martinique. Mais je crois, je le dis assez souvent, que le lieu est incontournable, c'est-à-dire non tout seulement qu'il est important pour nous, mais aussi, deuxième sens, aussi fondamental, que nous ne pouvons pas en faire le tour. Il est incontournable, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas l'enfermer et dans des murailles. Et je pense que ce qui est notre lieu, finalement, c'est le tout-monde, c'est-à-dire l'endroit où tous les lieux sont susceptibles d'être en rapport, en relation les uns avec les autres. Ce n'est pas la géographie qu'on privilégierait ici, ce serait une sorte de poétique des paysages. Par exemple, je pense que la plus petite saline d'une petite île des Antilles a un rapport avec le Sahara, cet énorme désert. Que la plus petite ravine a un rapport avec les Grands Canyons, qui est une ravine énorme, etc. Et que nous devrions apprendre, nous, humanité d'aujourd'hui, à fréquenter ces paysages et établir des relations entre eux.
Humanité, devrions apprendre à mettre les lieux en relation entre eux. C'est la voix d'Edouard Glissant dans une archive de 2003 diffusée sur France Culture. L'émission s'appelait « Du jour au lendemain ». Au micro, évidemment, d'Alain Weinstein. Il est question, dans cette évidemment très vaste théorie du tout-monde portée par Edouard Glissant, de considérer que les choses peuvent être reliées par des ponts, les îles peuvent être reliées entre elles. Alexandre Guirquinger, il y a dans vos images parfois la sensation justement d'un appel d'autres images. Notamment, on a évoqué très très rapidement le Land Art, mais en effet, pour qui est ému par les images de Land Art, on peut, en regardant vos propres images de la ligne Maginot, aller chercher ces lieux-là, en soi. Comme si vous étiez aussi laissé contaminer comme ça, en souterrain, par des images que vous connaissez par ailleurs.
Oui, absolument. C'est même, je pense, ça a été l'un des objets, l'une des manières pour moi d'éditer les images.
De les choisir, c'est-à-dire de les quand on dit
éditer. D'éditer, oui, de les choisir donc dans la masse d'images que j'ai accumulées pendant ces années, donc de savoir comment, pourquoi est-ce qu'on va exposer telle ou telle image. Et en fait, j'ai toujours essayé de chercher les images qui étaient le plus ouvertes vers l'ailleurs, vers ce qui n'était pas dans l'image et ce qui n'était pas vraiment dit dans l'image.
Et avec la possibilité, dans cette ouverture, d'une force d'appel, c'est-à-dire aussi d'appel et d'association, quand on entend Edouard Glissant dire « il y a quelque chose de très lié entre une petite ravine près de mon lieu d'enfance en Guadeloupe et l'immense Sahara en Afrique », c'est vraiment la possibilité de toucher à des universaux ou à de l'archaïque, en fait.
Ouais, absolument. Et par rapport au terrain... au pays dans lequel se trouve la ligne Maginot, c'est-à-dire la France, dont les paysages sont assez peu représentés, contrairement aux paysages américains. Il y avait aussi cette volonté d'aller représenter la France comme un ailleurs, en fait, comme un paysage exotique, que ce soit un paysage américain ou un paysage afghan, si on est dans les Alpes à 3000 mètres d'altitude, et d'essayer d'aller pousser un petit peu ces frontières de la représentation.
Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là dans votre travail. Alors peut-être, Marion, peut-être pas une fois que c'est passé sur le métal et qu'on passe dans quelque chose qui a plus à voir avec la matière, mais auparavant, dans la prise de notes que vous faites par le dessin des lieux, des chantiers, des bâtiments, on peut penser par exemple au travail de Hans-Hilda Béchard, qui ont photographié des bâtiments industriels de manière sérielle pendant des années. On peut aussi songer au fait que vous aviez conscience d'une certaine forme de tradition photographique, de tradition de l'image à l'égard de ces bâtiments. C'est peut-être pas du tout vrai, dans ce cas vous dites non.
Non, disons que c'est plutôt, oui, je connais, je crois que c'était inconscient, mais c'est-à-dire que c'est imprégné, et sans que j'ai vraiment fait les références directement. Donc les références, elles viennent après, parce que j'essaye vraiment, dans mon approche, d'être le moins imprégné d'images possible. Je préfère, parce que là par exemple on m'a demandé de travailler sur un château qui va disparaître, et moi je veux pas connaître l'histoire des lieux avant, et voilà, je veux rester neutre. Donc effectivement, évidemment je suis imprégnée, et puis surtout en l'occurrence j'ai effectivement beaucoup aimé ce travail de Béchard, mais c'était lointain, je l'avais oublié en fait, donc c'est revenu à moi après coup, et je pense qu'effectivement on est imprégné des images de l'époque industrielle, sauf que moi j'ai envie quand même de saisir les moments où tout ça est heurté, c'est-à-dire que c'est pas un moment stable que je cherche à dessiner, c'est un moment instable et très particulier qui ne sera plus, en fait, comme si j'allais dessiner quelque chose d'invisible.
D'ailleurs, c'est assez étonnant de ne pas vouloir avoir trop conscience de l'histoire des lieux. C'est pas exactement de la même façon qu'Alexandre, mais c'est tout de même quelque chose que vous disiez. Alors que vous êtes tout de même, en tout cas vous, travaillé par l'idée de la mémoire de ces lieux-là. Oui. Ça veut dire que vous faites une différence entre, et il y a, entre mémoire et histoire.
Oui, et puis je pense que je provoque aussi l'idée de mémoire telle qu'on la ressent et on l'aperçoit. Parce qu'on a beaucoup envie d'écrire l'histoire, et même au niveau du patrimoine, de préserver. Et moi, j'ai envie de bousculer, de prendre le risque. J'ai pas de propos pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est mieux, mais j'aime bien parler de cette idée que la vie a besoin d'espace pour s'installer. Et je pensais au suicide cellulaire, par exemple, pour une métaphore où il y a des cellules pour que l'embryon se développe et soit sain, et que la vie s'installe. Il y a une quantité de vide nécessaire dans les cellules. Et pour moi, c'était une métaphore que d'utiliser aussi ce rapport au lieu, parce que quelque part, il donne un signal de disparition. On peut pas tout garder du passé, et quelque part, peut-être que si on enlevait un peu notre affection à l'histoire, on arriverait peut-être à changer d'histoire aussi.
Pour vous, c'est une manière d'observer ces bâtiments qui disparaissent ou qui sont rénovés. C'est une manière d'observer la façon dont le présent se fait une place.
Oui. En fait, j'essaye de travailler sur ce jeu. En fait, le jeu qui est l'espace, par exemple, pour qu'une porte s'ouvre et se ferme, il y a cet espace très petit, mais qui fait que on peut ouvrir et fermer. Et quelque part, cet endroit où les espaces et les lieux changent, c'est très court et c'est décisif. C'est ce qui fait que ça fait le mouvement, en fait. Donc il y a une espèce d'actualisation et en aucun cas de nostalgie. En tout cas, j'espère, même s'il y a du romantisme là-dedans.
Et pour le pire et le meilleur, parce que quand la place se fait, est-ce que vous vous intéressez, par exemple, lorsqu'il s'agit de disparition ou de destruction totale, à ce qui va venir à la place ?
En tout cas, j'y ai accès en même temps que les autres personnes qui habitent le lieu, c'est-à-dire que j'attends le moment où on vient me donner l'information. Et puis j'observe. Après, je sais la force que ça peut avoir, justement, ce qui s'installe après. En termes de gentrification, pour parler un peu des espaces, parce que comme je suis à Paris, je travaille pour l'instant sur des zones urbaines et proches. Et forcément, ces questions-là, elles s'installent. Mais je ne cherche pas à avoir un propos par rapport à ça. Je questionne et j'espère être dans quelque chose d'intuitif et spontané, en fait.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et il est 14h50 sur France Culture, c'est l'heure de la dernière rubrique de l'émission qui propose à quelqu'un, pendant toute la semaine, de prendre en charge le chantier thématique et d'y ajouter des récits subjectifs. C'est le cas de Valérie Novel, que j'ai rencontrée la semaine dernière. Alors elle cherche des lieux et elle en décèle la qualité cinématographique. Elle dit même qu'elle peut lire les lieux de l'extérieur avec ses quelques années de métier. Aujourd'hui, elle nous parle du tournage du prochain film de Michael Haneke, dont le scénario indiquait la recherche d'une chambre de 5 ou 6 lits dans une clinique.
Il y avait entre autres le décor d'une clinique où on avait l'extérieur, donc l'arrivée de cette clinique, le haut de l'accueil, un ascenseur, on arrive au couloir, des chambres, jusqu'à une porte de chambre. Et derrière cette porte que les deux personnages vont ouvrir, il y a une chambre très longue comme ça avec 5-6 lits, ce qui évidemment ne se fait plus. Qui n'existe plus depuis longtemps, tout ça en plan séquence. Donc ça veut dire de la sortie de la voiture jusqu'à l'ouverture de la chambre, quasiment en plan séquence. Ce qui est formidable avec les scénarios de Michael Haneke, c'est qu'à la lecture, on sent le rythme, on sent la lumière, on sent les silences, on voit assez bien ce qu'il souhaite. Relativement assez vite, j'ai trouvé cette clinique, en tout cas à l'extérieur. Je n'étais pas sûre du tout que ça allait lui convenir, mais on sent quand un lieu a une sorte de qualité, c'est-à-dire là, en l'occurrence, une neutralité. Il ne fallait pas spécialement que ça raconte l'hôpital, mais en même temps, en une image, il fallait qu'on comprenne qu'on était voilà, dans un lieu de soins. Donc on est toujours très content que ça aille vite, même si les repérages, ça prend souvent beaucoup de temps. Donc on va en repérage avec Michael Haneke, avec Margaret Ménégo de la productrice, enfin avec le décorateur, une fois, deux fois. Donc le lieu convenait tout à fait. Il manquait cette chambre à 6 lits d'une part, et puis d'autre part, un peu au dernier moment, la clinique s'est dédiée et nous a refusé le tournage. Donc, bon, d'une part, il a fallu rechercher un autre décor, et puis la chambre à 6 lits, là encore, j'ai trouvé un endroit, une clinique abandonnée que j'ai trouvé, souvent c'est juste en se promenant, en se renseignant, On arrive à lire les lieux de l'extérieur, souvent, nous. On est tellement habitués, et puis on fait ça tout le temps, en fait, même quand on ne travaille pas, de lire l'architecture. Donc on sait à peu près quelle époque c'est, donc on sait quel genre de matériaux et de couleurs on va avoir à l'intérieur. Donc là, j'ai trouvé une clinique vide, où il y avait cette salle qui aurait pu tout à fait convenir, sauf qu'il manquait 3-4 mètres. Donc on a pensé abattre une cloison, puis d'abattre la cloison, ça ne suffisait pas encore. Et puis en fait, il fallait refaire la porte, mais en fait... Donc finalement, pour vraiment pouvoir avoir le plan que souhaitait Michael Haneke, avec une arrivée de lumière, on a fini par le faire en studio. Voilà, donc c'est le décor que je n'ai pas trouvé, mais que j'ai bien cherché.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat. En silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé les langues. Le chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, ça a pété. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée, pour vous servir d'acolyte. J'aurai mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme. Cuba, comme dit Casanova. Fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Si seulement il vous en disait.
Cette chanson de Katonoma, La Chambre, une chanson de 1993 qui place un lieu. Je ne sais pas si on pourrait mieux faire que cette chanson-là. On a parlé avec vous de La Ligne, votre projet sur La Ligne Maginot, Alexandre Guirquinger, et on a parlé avec vous des dernières heures des bâtiments, Marion Chauvard de l'Auve. Lorsque vous montrez ces photographies, comment est-ce que les gens, si vous avez l'occasion de discuter avec eux, reçoivent ces lieux que vous mettez en scène d'une manière ou d'une autre? Alexandre.
Moi, je vous parle de ce qui m'a fait plaisir. J'ai fait une intervention devant les équipes pédagogiques des rencontres d'Arles samedi. Et il y avait des médiateurs et des profs qui avaient amené des élèves dans l'exposition. Et ce qui m'a fait très plaisir, en fait, c'est que la science-fiction, ces éléments dont on a parlé tout à l'heure, revenaient dans la bouche des enfants, et qu'ils avaient été happés un peu de cette manière-là par ces lieux, et beaucoup plus par ce champ-là que par le champ historique ou guerrier duquel elles proviennent.
Et vous, ça vous a fait plaisir parce que vous vous êtes dit que c'était la force des formes, par exemple. Moi, j'ai en tête, lorsque vous parlez de science-fiction, des photographies de bâtiments ou d'objets dans ces paysages qui pourraient être des monstres ou des machines. Et c'est la puissance de ça?
Ouais, la puissance de ça. Et je pense le fait que ce soit, chez des enfants, il y a quelque chose de qui n'est pas englué ou parasité par des réflexions ou par des schémas préexistants. C'est un regard qui est assez vierge souvent. Du coup, il y a quelque chose d'assez direct. Donc il y a vu que je cherchais ça, je me suis dit que c'était assez efficace.
Il y avait une efficacité. Et de votre côté, Marion?
Pardon, j'ai
vous voulez savoir la question? On va plus avoir beaucoup de temps après pour y répondre. La question, c'est de savoir comment est-ce que ces lieux sont reçus par les gens qui les regardent ou les découvrent, par exemple sur les plaques de métal.
Oui, parce que j'invite souvent les gens à les prendre dans les mains. En fait, c'est une des premières choses que j'aime faire, c'est leur proposer de prendre les plaques dans leurs mains, parce qu'il y a une grande, il y a une masse dans le matériau, et puis en plus il est froid parfois. On pourrait penser que c'est plutôt du bois. Donc du coup, j'aime bien les voir
lourd.
Oui, voilà, j'aime bien les voir le toucher, l'appréhender comme une matière.
On pourra voir cette matière notamment dans l'espace public à Pantin, peut-être en novembre.
Oui, à partir de novembre.
Et en dehors de ce livre, La Ligne, publié chez BV Books et
RVB Books.
Et votre site internet très bien fourni. Est-ce qu'on pourra voir ces images en vrai bientôt?
J'espère. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour voir où est-ce que l'exposition va bouger. Mais ça viendra, je pense.
On espère aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé, mais on peut continuer d'échanger sur Twitter, Facebook et franceculture.fr. Un immense merci et des gros bisous en ce jour à Romain Debecq-Delièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui. David Federman, dans un instant, la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange. C'était Charles Barjou au droit d'auteur.